Je vais revenir sur mon image thème dans quelques instants. J'ai un assez long préambule ce matin pour introduire un combat spirituel. Et ça commence par un petit mot de témoignage. Ceux qui ont suivi l'aventure missionnaire de Brenda et moi en Afrique centrale, vous vous rappelez peut-être le dernier petit partage qu'on a fait. Je crois que c'était au mois de mars dernier, au début du mois de mars, suite à notre voyage au Tchad, on vous avait dit, bon, le Seigneur nous a montré qu'on ne retournerait pas au Tchad et que c'était un sujet de prière pour voir la suite. Bon, et depuis, le Seigneur a fait évoluer, a concrétisé cette conviction-là, et puis le fait est qu'il nous a montré que notre aventure missionnaire est terminée, elle est conclue. Le voyage au Tchad de janvier-février était notre conclusion, en quelque sorte. Et le Seigneur nous a montré ça dans les semaines qui ont suivi le voyage, et puis on a rencontré nos superviseurs à la mission, et puis on a officiellement démissionné à la fin du mois de mars, et été rendu officiel le 23 avril. Alors, bon, je ne vais pas élaborer davantage sur ça, je voulais simplement vous donner cette petite nouvelle-là. Si vous voulez en savoir davantage, en discuter, Brenda et moi, on va être disponibles après pour discuter de la chose avec vous, si vous voulez. Mais la raison pour laquelle je le mentionne, c'est pour introduire ce matin, c'est que souvent dans les églises, on considère les missionnaires comme des super-héros de la foi. N'est-ce pas? On les met sur des piédestals, des piédestaux. On juge qu'ils accomplissent hein, des grandes choses pour le royaume de Dieu et tout ça. Bon, c'est vrai que c'est pas un appel qui est donné à tout le monde d'aller outre-mer ou de faire dans notre cas, c'était un ministère technique assez pointu, la traduction biblique et tout ça. Il y a plusieurs parmi vous ont fait des voyages missionnaires, donc vous savez, c'est spécial, c'est pas donné à tout le monde, c'est une expérience particulière, et puis c'est vrai que oui, Dieu accomplit des choses spéciales à travers ces gens-là. Mais il y a une facette de la mission qui est... Qu'on ne réalise pas, c'est ce que Dieu fait dans le cœur du missionnaire durant ces moments-là. Parce que Dieu accomplit une œuvre aussi dans le cœur du missionnaire. Et puis, durant les 12 dernières années où Brenda et moi, on a été avec l'organisation Wycliffe pour la traduction de la Bible et puis tout ce qui nous a permis de faire, oui, on a accompli des belles choses. Mais moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ce que Dieu a fait dans mon cœur durant ces 12 années-là. À travers les expériences que j'ai vécues. Dieu m'a mis dans un contexte multiculturel, un contexte multiconfessionnel, aussi plusieurs dénominations différentes. Et puis, il s'est servi de tout ça pour élargir mon horizon de foi d'une façon vraiment particulière, puis dans des circonstances diverses. Puis, un des domaines qu'il m'a fait découvrir ou redécouvrir, d'une certaine façon, c'est le combat spirituel. Dans notre milieu conservateur occidental, ici, on reconnaît que la chose existe, parce que la Bible en parle, et puis nos théologiens ont écrit quelques chapitres là, sur le sujet dans des livres de théologie, mais du côté pratique, on a tendance à réduire le combat spirituel à la lutte du croyant contre le péché. Dès qu'on essaie d'aller un petit peu au-delà de ça, dans un domaine un peu plus invisible, spirituel, puis de commencer à parler de ce monde-là, on devient un petit peu inconfortable. C'est pas vrai? Et déjà, peut-être certains d'entre vous commencent à se sentir inconfortables. Parce que vous avez en tête des images de certains films, peut-être, et puis vous dites que Jésus me demande certainement pas d'aller là, puis c'est un domaine où on ne veut pas aller. Il y en a peut-être d'autres qui ont la réaction totalement inverse. C'est « Waouh! Parle-nous des manifestations spirituelles bizarres que tu as vues en Afrique. » J'ai pas vu de manifestation spirituelle bizarre en Afrique. Et j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas plus de manifestations spirituelles en Afrique qu'il n'y en a ici. Elles prennent différentes formes peut-être, mais il n'y en a pas plus en Afrique qu'il y en a ici. Puis c'est pas là que je veux aller. C'est pas ça le but de ma série. Il faut faire attention de ne pas laisser Hollywood définir ce domaine essentiel de la vie chrétienne. Il ne faut pas prendre le combat spirituel à la légère, d'un côté. De l'autre côté, il ne faut pas en avoir peur au point qu'on ne veut pas y toucher. Alors, tout cela étant dit, le Seigneur m'a mis à cœur d'utiliser les occasions qu'il me donne pour prêcher, les quelques occasions que je peux enseigner ici pour, comme un prétexte pour essayer d'organiser les réflexions que j'ai eues depuis les 7, 8, 10 dernières années sur le sujet, et puis essayer de vous les présenter. Le Seigneur m'a permis de développer un petit peu mon modèle à moi pour essayer de comprendre la chose à l'intérieur de ma vie chrétienne. Et puis, je veux essayer de vous le partager à travers une série. Je ne ferai pas ça, tout ça un matin. Et donc, une série sur le combat spirituel. Vous comprendrez que je ne prétends pas vous présenter la vérité définitive sur le sujet, du style là, tout ce que chaque croyant doit savoir au sujet du combat spirituel. Je suis loin d'être un expert dans la matière, mais je veux simplement vous présenter mon modèle à moi, là où j'en suis rendu, ma compréhension de la chose. Mon modèle que j'ai défini en utilisant les outils que Dieu m'a présentés dans sa grâce et puis les réflexions que j'ai faites par la grâce de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit pour en arriver là. Puis c'est un modèle qui me permet de mieux comprendre ma vie chrétienne. C'est un modèle qui, je l'espère, se veut assez pratique pour la vie chrétienne. Ceci étant dit, je suis ouvert à la discussion. Pas durant mon message, là, nécessairement. Mais après, je suis même ouvert à la correction, parce que je prétends pas être à 100% dans le mille. C'est encore en évolution, tout ça. Et puis, ça fait que je vais vous partager ça. Puis vous, votre responsabilité, c'est de faire un peu comme les chrétiens de Bérée. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient, les chrétiens de Bérée, dans Acte 17? Ils vérifiaient chaque jour dans les Écritures pour voir si ce que l'on leur disait était exact. Alors, ça, c'est votre responsabilité. Et puis, d'être ouvert aussi à ce que Dieu veut nous enseigner à nous tous par son esprit. C'est sa parole, c'est son esprit, nous sommes son Église. Alors, soyons ouverts et disponibles à ce qu'il veut nous enseigner. Et entre parenthèses aussi, quand on est revenu en 2010, j'ai rencontré Terry Cuthbert dans certaines circonstances. Terry Cuthbert, certains d'entre vous le connaissent, il est le directeur de l'implantation des églises pour l'association. Puis ses parents étaient missionnaires au Brésil. Alors Terry a eu une expérience missionnaire au Brésil. J'ai partagé un petit peu certaines pensées que j'avais par rapport là où j'étais rendu à ce moment-là. Puis il m'a donné un conseil. Il m'a dit de développer ma théologie du combat spirituel à l'intérieur de ma théologie de la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le combat spirituel, c'est pas un sujet qui... Bon, il y a la vie chrétienne, la sanctification, puis tout ça. Puis à côté, il y a le combat spirituel, et puis ben, il y en a certains qui le font, mais il y en a d'autres qui le font pas. Puis c'est comme si c'était un gros sujet en soi. Non, le combat spirituel, c'est à l'intérieur de la vie chrétienne et de la sanctification. Ça en fait partie. C'est pas un élément essentiel qu'il faut mettre de l'avant en lui-même. Ça fait partie de la vie chrétienne, de la sanctification. Et puis, il faut qu'on sache c'est quoi. Alors, c'est dans cette direction-là que j'ai essayé de développer mes affaires. Maintenant, quelques commentaires au sujet de mon image ici, derrière. Certains diront peut-être, excusez, une autre petite parenthèse, pour ceux qui écoutent simplement soit la vidéo ou l'enregistrement sur Facebook, il va y avoir un lien à quelque part sur la page Facebook, sur le site web pour ma présentation. Bon, mon image thème ici. Certains vont peut-être trouver ça un peu cliché de mettre un soldat comme ça médiéval pour le thème du combat spirituel. Bon, moi j'aime ça, le thème médiéval et puis le fantastique. Et puis comme c'est moi qui a le privilège de choisir mes illustrations, ben c'est ça que j'ai choisi, OK? Et puis de toute façon, j'avais besoin d'une épée à quelque part parce qu'il y a l'épée de l'esprit, hein, tout ça dans la Bible, donc c'est une métaphore qui est importante. Mais au-delà de tout ça, mon soldat là, son armure n'est pas toute propre et brillante. Son armure est sale, elle est usée, parce que la guerre, c'est pas propre. Puis la guerre, c'est pas quelque chose qu'on fait, bon, c'est dimanche, je sors mon armure du garde-robe, elle est toute bien shinée, je vais la mettre, et puis là, je vais aller pendant 2 heures, et puis là, quand je reviens à la maison, je vais resserrer mon armure dans le garde-robe. Combat spirituel, c'est quotidien. Donc l'armure, elle prend des coups, puis elle est usée. Puis elle est sale. Mon monsieur, il est balafré, hein, il a une cicatrice dans la face, même si c'est du maquillage pour la photo, là. C'est significatif pour moi parce que le combat spirituel, ça laisse des cicatrices puis des blessures. Faut pas penser qu'on va faire le combat spirituel en restant safe, puis tout va bien aller, puis il n'y aura pas de problème. Des fois, il va y avoir des tensions, puis des difficultés, puis des blessures, puis des cicatrices. Il n'y a pas nécessairement un regard doux et gentil, mon monsieur. Parce que quand on est à la guerre, on n'aime pas nos ennemis. Mais là, peut-être certains d'entre vous, vous réagissez, « Ah, mais Jésus a dit qu'il faut aimer nos ennemis !» Hein, Matthieu 5, 44. On parle d'ennemis spirituels ici. Dieu a aussi dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Puis une des raisons pour laquelle, en tant que croyant, on a des difficultés dans la vie chrétienne, c'est peut-être parce qu'on aime trop nos péchés, puis qu'on aime trop le monde, puis on ne réussit pas à avoir de victoire, parce qu'on aime trop nos ennemis. Et finalement, c'est un homme, c'est un gars, un mâle. Parce que, non pas parce que c'est pas politically correct, mais c'est pas parce que les dames ne sont pas des soldats, des guerrières. Au contraire, je connais des dames qui sont des grandes guerrières pour le Seigneur. Mais c'est parce que, messieurs, nous avons une responsabilité, je crois que nous avons une responsabilité particulière à l'égard du combat spirituel. Et puis j'espère que dans la série de messages, je vais y revenir particulièrement là-dessus. Alors, quand vous verrez mon image, ben j'espère que vous allez penser à tout ça. Ça va? Bon, c'était un long préambule pour en arriver à parler ce matin de plus particulièrement de l'enjeu du combat spirituel. Alors, avant de continuer, on va dire un mot de prière, s'il vous plaît. Père éternel, je veux te bénir, je veux te remercier ce matin, parce que tu es un Dieu de grâce, tu es fidèle, tu es bon. On a pu te chanter, te louer, t'adorer il y a quelques minutes. Tu en es digne et on te bénit pour tout cela. Et maintenant, tu nous vois, on est rassemblés. On veut ouvrir ta parole. On veut être attentif à toi, à ton esprit, à travers ta parole. Je te prie de m'aider à dire les bonnes paroles, à ne pas dire de niaiseries. Sanctifie ma bouche dans ta grâce. Mais sanctifie aussi les oreilles, le cœur de mes frères, de mes sœurs ce matin. On veut tous ensemble entendre ta voix et puis être attentif à ce que tu veux nous enseigner. Alors on s'attend à toi ce matin et on veut te glorifier dans cela. Au nom de ton fils Jésus. Amen. Donc, avant de se lancer dans les grandes questions potentiellement controversées sur le combat spirituel, il convient de se demander en introduction quel est l'enjeu du combat. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent la finale de la Coupe, les finales de la Coupe Stanley, là? Il n'y en a pas du tout. Il y en a quelques-uns, hein? Je pense que ça va commencer mercredi. C'est Tampa Bay contre Chicago. Moi, je ne suis pas ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Mais ces équipes-là, là, une fois qu'ils sont sur la glace, là, ils se battent pour quoi? Pardon? La coupe. Il y a un enjeu au. Les sept games potentiels qui s'en viennent, là, il y a un enjeu. Ils ne font pas ça juste pour le fun. Il y a quelque chose au bout. Il y a un enjeu. Quel est l'enjeu du combat spirituel? C'est ce que j'aimerais discuter un peu brièvement, étudier brièvement à travers quelques versets ce matin. Le premier verset, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. C'est un verset que notre frère Gilles a traité dernièrement, il y a quelques semaines. Je le ramène, on va le traiter d'une façon, Dieu voulant, aborder d'un angle un petit peu différent. En fait, je veux dire un mot sur le cœur. Comme vous pouvez vous en douter, je l'ai mis bien en évidence ici, là, en le définissant, en fait. Le cœur. Évidemment, on ne parle pas de l'organe physique dans notre corps qui pompe le sang. On parle ici en des termes figurés. Oups, non, c'est le mauvais piton, c'est pour ça. Ça arrive des fois. On a un modèle ici dans notre société occidentale où on oppose le cœur et la tête. Le cœur, ça devient le siège des émotions puis des sentiments. Puis la tête, ça devient le siège de l'intelligence, de la connaissance, de la raison. Quand on dit à quelqu'un « t'as pas de cœur », c'est parce qu'il n'est pas assez sensible. Quand on dit à quelqu'un « t'as pas de tête », c'est parce qu'on dirait que t'as pas réfléchi. OK? On est très, très familier avec ce modèle-là, n'est-ce pas? De cœur et de tête. On a tendance à classer les gens aussi en fonction du cœur et de la tête. Il y a des gens qui sont plus des gens du cœur, qui sont plus sensibles. Comme mon épouse Brenda, est plus sensible. Elle interprète la vie davantage avec son cœur. Puis il y a des gens qui sont plus du côté de la tête, comme moi, qui font des décisions, qui sont plus raisonnables, qui font des qui interprètent leur vie davantage avec leur tête. C'est pas vrai qu'on. Je dis pas, c'est pas vrai que je suis raisonnable. C'est pas vrai qu'on classe les gens comme ça. Ce modèle-là nous cause des problèmes des fois, parce que il y a certaines choses de l'être intérieur qui sont un petit peu difficiles à classer. La pensée, les pensées. Est-ce que ça appartient au cœur ou à la tête? Cœur, tête. Ceux qui sont des gens de cœur vont dire « ça appartient au cœur » parce que c'est tellement intime, ça fait partie de ton intimité, c'est des affaires de cœur. Mais les gens qui sont plus rationnels vont dire « non, 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 c'est une faculté intellectuelle, je pense, donc je suis, ça appartient à la tête. » Cœur ou tête? Pensez à une autre, la foi en Dieu, la foi qui me donne accès au salut. Cœur ou tête? Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un qui veut me citer, là, Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Est-ce que la foi appartient au cœur? Ça me cause un problème. Moi, je suis très intellectuel, hein, vous le savez. Si la foi relève du cœur qu'on définit comme étant le siège des émotions et des sentiments, alors je ne suis pas sauvé. Ma conversion à Jésus-Christ a été une démarche essentiellement intellectuelle. Quand j'avais 18-19 ans, le Seigneur a touché, j'allais dire touché mon cœur. Mais c'est pas faux. Écoutez-moi. j'ai un esprit très rationnel, je suis très cartésien dans ma démarche, j'avais des grandes questions existentielles, je croyais que la Bible était la parole de Dieu, j'ai pris la Bible dans ma chambre, c'était la super, tu sais, les grosses Bibles rouges, tranches dorées avec des images, une Bible de l'Église catholique que mes parents ont reçu quand ils sont mariés. J'ai commencé à lire, je lisais un chapitre du Nouveau Testament puis un psaume à tous les soirs, pendant à peu près un an et demi. Je ne connaissais pas c'était quoi les églises évangéliques, je ne connaissais aucun croyant évangélique. J'étais tout seul avec la Bible. Et puis à un moment donné, tout seul, j'ai découvert trois vérités. Premièrement, tous les hommes sont pécheurs. Ensuite, tous les pécheurs sont condamnés à l'enfer. Troisièmement, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Ça, c'est trois vérités que j'ai découvertes dans mes lectures bibliques. C'est pas faux, hein? Alors, j'ai tiré la seule conclusion logique et raisonnable que j'ai pu arriver. J'ai dit, Jésus, sauve-moi. J'ai pas versé de larmes. J'ai pas été rempli d'émotions devant la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. J'ai pas été effrayé à la perspective de l'enfer. J'ai simplement et froidement analysé les vérités que j'avais découvertes et j'ai tiré une conclusion. Est-ce que je suis moins sauvé pour autant? Quelques semaines après ma prière de conversion, parce que j'ai, suite à ça, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, 1, 2, 3, alors sauve-moi », j'ai lu dans la Bible un verset qui disait en 1 Jean 5, 12 et 13, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Moi, ce que je lisais, c'était la vérité. OK, je suis très, je dis, bon, OK, je suis sauvé. Puis, j'ai jamais douté de mon salut depuis. C'est une démarche intellectuelle que j'ai faite essentiellement. Alors, cœur ou tête? Comment résoudre le problème? Il ne faut pas s'inquiéter ici, là, parce que c'est un problème apparent seulement. C'est un faux problème, ce n'est pas un vrai problème. D'abord, le salut n'est pas une question entre le cœur, de choisir entre le cœur ou la tête. Le salut, c'est une question de foi et de repentance. La repentance, c'est prendre conscience de son état de pécheur devant Dieu, de le confesser puis de se détourner de ses anciennes pratiques pour obéir à Dieu. Dans mon cas, cette repentance s'est manifestée par une identification personnelle aux vérités que j'avais découvertes. Moi, j'étais un pécheur. Moi, j'étais condamné à l'enfer. Dieu avait raison de le faire parce que c'était selon sa justice. Et puis moi, j'avais besoin du Seigneur Jésus pour me sauver. Alors, j'ai prié, je me suis repenti, j'ai reconnu ma condition devant Dieu, puis je lui ai dit « Sauve-moi ». Ça a été intellectuel, mais j'ai quand même fait cette démarche-là. C'est une démarche de foi et de repentance. Alors, qu'on soit une personne de cœur ou une personne de tête, le salut est accessible par la foi sur la base d'une repentance personnelle. Ensuite, on n'a pas besoin de choisir entre tête ou cœur si on accepte la définition biblique du cœur. Parce que notre modèle cœur-tête, c'est culturel. Si vous vous transférez, si vous ouvrez votre Bible et vous voulez être dans la culture de la Bible, vous devez prendre le modèle, la définition du cœur que la Bible vous donne et la définition de la tête que la Bible vous donne. Dans la Bible, la tête, c'est le chef, c'est le leadership. Ça n'a aucun rapport avec l'intelligence ou la connaissance. Le cœur ramasse tout le reste. L'être intérieur, c'est le cœur. Alors, dans ça, il y a les émotions. Et vous pouvez, là, je vous ai mis quelques versets, joie, tristesse, inquiétude, affection, etc. Il y a plein d'émotions qui sont liées à ça. Le cœur, c'est aussi l'intelligence, puis vous allez pouvoir trouver encore plein de versets qui mentionnent des facultés intellectuelles. J'en ai noté quelques-unes. L'attention, la mémoire, la réflexion, la compréhension. Des fois, vous allez avoir des expressions, si vous avez une Bible plus littérale, des expressions qui vont dire, attendez un petit peu, prendre la chose à cœur. Ça veut dire quoi, prendre la chose à cœur? Ben là, t'es attentif, tu arrêtes ton attention sur la chose. Il va y avoir des expressions comme dire dans son cœur. Dire dans ça veut dire quoi? Dire dans son. Ben, t'es en train de réfléchir, tu te parles à toi-même. T'es en train de réfléchir. Alors, dans la Bible, le cœur, c'est tout ça. C'est plus que ça. Volonté, tous vos désirs, toutes vos intentions, c'est dans le cœur. Selon la Bible, ça se passe dans le cœur. Il y a des choses que je trouve bien le fun, les habiletés. Saviez-vous ça que selon la Bible, vos habiletés, c'est dans votre cœur? En Exode 28, quand il y a la construction du tabernacle, et puis Dieu dit, « Bon, je vous ai donné des personnes qui sont habiles pour exécuter tous les travaux. » Habiles, ça veut dire, c'est littéralement « sage de cœur ». Les habiletés, c'est dans votre cœur, selon la Bible. On pourrait parler de conscience, on pourrait même aller jusqu'à parler d'imagination, de créativité. Toutes les choses de l'être intérieur, c'est votre cœur, selon la Bible. OK? Alors, quand Dieu dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, si tu crois dans ton cœur, c'est tout ça. Alors, il y a des versets qui prennent des... Quand on y réfléchit avec cette perspective-là, un sens assez intéressant. Quand Dieu dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », fais pas seulement appel à vos émotions. Fais appel à votre intelligence, fais appel à votre imagination, votre créativité, fais appel à votre conscience, fais appel à votre volonté. Quand moi, j'ouvre la Bible, j'étudie un passage, puis je trippe intellectuellement parce que Dieu me fait découvrir une vérité, puis là je dis « Wow, Seigneur !» Je suis en train de l'adorer puis de l'aimer. Quand un artiste est touché par la création de Dieu, puis il écrit un poème, il peint une toile, il fait quelque chose de créatif, il parle, c'est son cœur par rapport à Dieu. Dieu nous appelle à nous engager d'une façon beaucoup plus globale que simplement une question d'émotion et de sentiment. Puis ça, en fait, moi, ça me donne beaucoup d'espérance puis beaucoup de joie. Parce que, en étant quelqu'un de très intellectuel et de très rationnel, ça me montre que, non, Dieu, il veut tout ça. Toutes mes capacités, il m'a créé comme ça. Alors, il veut tout ça. Puis, il veut que je l'aime avec tout ça. Puis, on l'aime chacun d'une façon différente, parce qu'on n'a pas été créé de la même façon à l'intérieur. On n'a pas les mêmes capacités à l'intérieur. Mais Dieu fait appel à tout ça en nous. Alors moi, je trouve ça très encourageant de savoir ça. Prenez aussi le verset « Je vous donne un cœur nouveau. Je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dans Ézéchiel. Dieu n'est pas en train de dire simplement qu'il va nous rendre plus sensibles émotivement. Il est en train de dire que tout ça, là, tout ce cœur-là, il veut lui donner la vie. Il veut lui redonner la vie. Nous, quand on voit cœur de pierre, on a tendance à dire, « Ah, pierre, c'est dur, c'est insensible, donc c'est cœur de chair, ça va être plus sensible. » Non, c'est pas la question insensible-sensible, c'est la question, pierre, c'est mort. La chair, ça vit. Puis Dieu veut redonner la vie à tout ça. Tout notre être. Dieu veut guérir l'ensemble. Là, je vais le lire parce que j'ai écrit une belle phrase que je veux lire, sinon je vais la moffer. Oui, il nous rend plus sensibles émotivement, mais aussi, il renouvelle notre intelligence. Il purifie nos désirs, il veut laver notre conscience, nettoyer tout notre être intérieur des traces laissées par le péché. Il veut restaurer ce qui est abîmé, réparer ce qui est brisé. Puis tout ça s'appelle la sanctification. Et ça fait appel à tout notre être intérieur. C'est un processus qui va être complet seulement dans l'éternité, mais c'est commencé ici-bas. Dieu veut, Dieu l'a commencé dès le moment où on accepte Jésus comme sauveur. La régénération, la nouvelle naissance, le processus commence. Et c'est tout ça que Dieu veut restaurer. Alors, avec une telle définition du cœur, maintenant, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On comprend bien pourquoi le Salomon a dit que du cœur viennent les sources de la vie. Toute votre vie prend ses sources dans votre cœur. Toutes vos activités sont planifiées, sont pensées, sont réfléchies, sont ressenties dans votre cœur. Toutes vos relations, notre vie est faite de tellement de relations, ça se passe au niveau du cœur. Pensez à tout ce qui fait votre vie et ça se passe à partir du cœur. Ça commence là. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, garde ton cœur, garde tout ton être intérieur, plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que tout vient. Et c'est pour ça que, plus que toute autre chose, il y a une question de priorité. Ça devient très important. Et puis, ça explique aussi pourquoi c'est là que se déroule le combat spirituel. Le cœur, c'est le lieu. Tiens, pas nécessairement l'enjeu. C'est le lieu du combat spirituel, le champ de bataille. Parce que celui qui contrôle le cœur contrôle la vie. Celui qui réussit à influencer le cœur d'une personne influence sa vie. Alors, il faut garder son cœur. Là, ici, le mot « garder » est un petit peu ambigu. Et puis, si on considère le sens, si on étudie les langues et on regarde vraiment le sens du mot lui-même, il va donner un sens négatif au cœur. Le cœur est méchant, il faut le garder. Il faut l'empêcher de comme on surveille un prisonnier, il faut l'empêcher de manifester sa méchanceté. Et puis, il y a plusieurs versets qui évoquent ça. Jérémie 17:9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Puis, ça, il y a Paul aussi dans son Épître aux Romains qui a développé énormément dans le chapitre 3, quand il démontre à quel point on est pécheur. Ou bien Jésus lui-même qui a dit en Matthieu 15:19 que c'est du cœur que viennent les raisonnements mauvais, les meurtres, les adultères, l'inconduite sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors oui, dans un certain sens, le cœur est méchant. Mais il y a certains autres théologiens qui regardent ce verset-là d'un sens plus global, plus large, et puis qu'ils en arrivent à dire, non, le cœur est précieux et il faut le protéger. Jérémie 24:7 dit, « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Et puis aussi Dieu poursuit, il dit qu'il a inscrit sa loi dans le cœur du croyant. 33:33, « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël en près ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. » Alors si la parole de Dieu, si la loi de Dieu est dans mon cœur, ça devient précieux. Il faut que j'en prenne soin, il faut que je le protège. Alors précieux ou méchant? Est-ce qu'on doit garder l'intérieur ou protéger de l'extérieur? Ici, dans un contexte de combat spirituel, personnellement, je me permets de conserver les deux. Ça peut paraître bizarre, mais je trouve que les deux fitent à certains égards. Et puis pour m'aider à comprendre ça, le Seigneur m'a donné comme une espèce d'image où je me dis que mon cœur, c'est comme une ville fortifiée. Vous avez déjà vu des fortifications, si vous êtes déjà allé à la ville de Québec, Il y a le mur de la ville, hein, ça, je pense que c'est la. Je me rappelle plus si c'est la porte Saint-Louis, la porte Saint-Jean. Mais donc, il y a une ville parce qu'à l'époque, lors de la fondation, c'était pas juste là pour décorer, c'était là, il y avait un but de protection. Il y a aussi des. C'est le. Oui, merci, Mont-Saint-Michel. En plus, lui, il est sur une île là, quand la marée est haute, là, alors c'est assez spécial. Vous voyez la fortification? De nos jours, ces choses-là, c'est juste des attraits touristiques, mais ça a été construit pour un but. Et puis, puis même dans la Bible, la ville de David, la cité de David, ou la ville de Jérusalem elle-même, était une ville fortifiée. Il y avait une... Excusez, mon image n'est pas très, très précise, mais en tout cas. Donc, il y avait un mur hein, tout le tour, il y avait différentes portes. Et puis, le but de ça, c'est s'il y avait une invasion, la population même qui restait autour fuyait vers la ville. Une fois qu'ils étaient entrés, on fermait les portes et puis là, ils pouvaient se protéger. Alors, mon cœur est comme une ville fortifiée. Dans le sens que, bon, il y a des gens qui restent à l'intérieur. Mais il y a des quartiers qui sont un petit peu moins recommandables que d'autres. Il y a des quartiers un petit peu plus sombres. Et puis, j'ai besoin d'une police pour aller contrôler les affaires. Parce qu'il y a certains... Oups, c'est pas ça que je voulais faire, excusez. Parce qu'il y a certains quartiers, peut-être plus loin du temple, là, ce quartier-là, ici, là. Ah, lui, là, c'est toutes les détritus de la société, hein, les gens de mauvaise vie et tout ça qui se ramassent là. Bon, ça, ces luttes internes-là, ben, c'est moi qui lutte avec ma chair, puis tout ce qui fait mon ancienne vie, là. Mais j'ai un mur aussi, puis dans mon système de sécurité, j'ai des gardes qui patrouillent sur les murs. Puis quand ils voient qu'il y a une invasion qui vient de l'extérieur, on ferme les portes et puis on se protège. Parce que de l'extérieur aussi, il y a des attaques. Il y a des attaques. L'ennemi qui cherche à venir semer le trouble. Et puis je dois combattre contre cet ennemi-là. Alors cette image-là de la ville fortifiée, ça m'aide à comprendre un petit peu ces deux côtés-là. Mon cœur est méchant, oui, il faut que je patrouille puis que j'envoie ma police. Mais mon cœur est précieux aussi, il faut que je le protège parce que de l'extérieur, il y a des choses qui viennent. Ça va? Ça fait-tu du sens? Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Lorsque au début, quand j'ai développé ce thème-là, j'avais essentiellement juste ce verset-là en tête, et puis j'allais faire en conclusion la déclaration suivante. L'enjeu, c'est ton cœur. Au début, je me disais, ah oui, c'est vraiment ça. Là. C'est l'enjeu du combat spirituel, c'est ton cœur. Mais en y réfléchissant comme il faut, il y a des choses qui clochaient. Puis je me suis aperçu, j'aurais tendance à dire que, bon, ça c'est vrai, mais pour le non-croyant. Le non-croyant, il est dans les ténèbres, il est sous l'empire de l'ennemi, il est destiné à la colère de Dieu. Et puis, l'ennemi veut le garder dans cette position-là, dans cette condition-là. Et d'où le combat, dans le combat, l'enjeu, c'est son cœur, parce que c'est une question de vie ou de mort. À qui va appartenir son cœur? Est-ce qu'il va rester dans le camp de l'ennemi? Ou est-ce que il va être libéré de ça? Et en parenthèse, peut-être que vous vous dites, « Oh, mais moi, je suis correct, hein? J'ai toujours été chrétien, j'ai pas de problème avec ça. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père, mon grand-père, mon aïeul était chrétien. Toute ma famille a toujours été chrétien. Ou bien j'ai grandi dans l'église. Je suis allé à l'école du dimanche. Je connais toutes les histoires bibliques. » J'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est le fait est qu'on ne peut pas être chrétien par nature. On doit le devenir. L'apôtre Jean a donné ce verset-là. Il dit la parole en parlant de Jésus. Dans le contexte, la parole, c'est Jésus. La parole est venue chez les siens, chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. On n'est pas par nature enfant de Dieu, on doit devenir enfant de Dieu. Ceux qui sont nés non du sang, même si on a le plus beau lignage possible, même si votre lignée remontait à, je sais pas, un évangéliste Billy Graham, Alain Chouaquier, un grand réformateur, un apôtre, si vous êtes capable de retracer votre lignée jusqu'à un apôtre, ça change rien, ok? C'est pas une question de lignée, ni d'une volonté de chair. La vertu de vos parents, le fait qu'ils étaient des bons chrétiens, ne fait pas de vous un bon chrétien. Ce n'est pas non plus une volonté d'homme. Ce n'est pas parce que vous-même, vous faites plein d'efforts, vous avez suivi tous les rites, les rituels de votre religion, de votre Église. Ce n'est pas vos efforts qui font de vous un chrétien. Il faut naître de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on doit naître de Dieu. On doit accepter le verdict de Dieu sur sa vie, se repentir, puis recevoir pour soi ça. Par la foi, l'œuvre que Jésus a accomplie. On a célébré l'œuvre de Jésus avec la table du Seigneur ce matin. Alors, il faut l'accepter pour soi. Et puis, tous ceux qui ont fait cette démarche de foi, la Bible dit que Dieu nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Et c'est parce qu'il y a eu ce transfert de royaume-là que le combat est dans votre vie, vous qui croyez en Christ. Vous avez changé de royaume, puis votre ancien maître n'aime pas ça. Mais l'enjeu, ce n'est pas votre cœur. Si vous êtes non-croyant, l'enjeu, c'est votre cœur. Mais si vous êtes un croyant, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Votre cœur appartient à Dieu. Et comme le verset que j'ai cité tantôt, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alors, si l'enjeu pour le croyant, ce n'est pas son cœur, c'est quoi? Ça m'a amené à un autre verset que je trouvais intéressant. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. On connaît bien cette deuxième partie. Spécialement, je pense que c'est presque notre verset thème ici à l'Église de Trois-Rivières. On parle souvent de ça. On veut que les gens aient la vie en abondance, puis goûtent à cette vie en abondance-là. On cite souvent la deuxième partie du verset, mais on oublie que ça vient d'un... Jésus est en train de mettre sa déclaration en contraste avec le voleur qui ne vient que pour voler, abattre et détruire. Puis ça, c'est comme une déclaration de guerre. C'est un contexte de combat spirituel ici. Le Seigneur met en contraste ce que lui offre à ce que le voleur impose. Et si cet ennemi, ce voleur-là, ne peut pas toucher à la vie spirituelle que Jésus donne aux croyants, par contre, il peut l'empêcher de goûter à l'abondance promise au repos et à la plénitude qui se trouve en Jésus. L'enjeu du combat spirituel pour le croyant, c'est la vie abondante. Dans cette vie parfaite et entière que Dieu avait communiquée à, si on remonte à la création, Adam et Ève, ils avaient cette vie-là. Mais de nos jours, à cause du péché dans notre cœur, ce canal, notre cœur, qui est le canal qui nous donne accès à cette vie en Jésus, ce canal-là a été brisé, abîmé, sali, corrompu, perverti. Mais encore une fois, par son esprit, le Seigneur veut réparer, restaurer, nettoyer, corriger, purifier votre cœur pour que nous puissions goûter dès à présent la vie abondante qu'il veut faire jaillir en nous jusque dans l'éternité. Un auteur que j'ai découvert, John Eldridge, identifie différents moyens par lesquels ce processus s'accomplit. Discipline, counseling, guérison, combat. Pardon. Discipline, ici, il ne faut pas comprendre Bon, je vais discipliner mon enfant. Il a fait quelque chose de méchant, je vais lui donner une conséquence. Ce n'est pas dans cet aspect-là. Et ce n'est pas non plus tout à fait dans le sens que les disciplines de la vie chrétienne. C'est quoi les disciplines de la vie chrétienne? Tu lis ta Bible, tu pries tous les jours, tu vas à l'église le dimanche, plus sur semaine le groupe qui se réunit, peu importe, etc. On a toute une liste de choses à faire. On appelle ça les disciplines de la vie chrétienne. C'est pas non plus dans ce sens-là que John Eldridge, même ça, si en parenthèse, je me moquais un petit peu, mais c'est des bonnes choses. Pas si on en fait, c'est des bonnes choses si on les garde à leur bonne place. La discipline, c'est être un disciple de. La discipline dans le sens que je suis un disciple de Jésus et comme Marie s'assoyait au pied de Jésus pour recevoir son instruction, on est un disciple, on devient un disciple de Jésus, puis on développe une relation avec Jésus. Toutes les autres choses, cette liste de choses à faire, c'est des outils que Dieu nous donne dans notre développement de disciple. Mais ce n'est pas juste des choses, si on les fait, on est sûr d'être un disciple. Il faut avoir une relation avec le Maître. Et la discipline ici, c'est dans cette perspective-là de relation avec le Maître. Counseling, des fois on a besoin quelqu'un vienne à côté de nous autres pour nous encourager à faire quelques pas puis à changer des choses. On a besoin soit dans une formation, on suit un cours de disciple et puis on a quelqu'un qui nous instruit, qui nous aide, qui prie avec nous puis qui nous donne une direction. Ou bien on a un problème qui pèse, on vient voir un pasteur puis le pasteur nous donne des conseils. C'est un petit peu tout ça le counseling. La guérison spirituelle, des fois, on rencontre des blocages. Et puis, il faut aller plus loin que ça. Il faut essayer de, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis comme ça? Ben, des fois, c'est parce que j'ai subi un traumatisme, parce que j'ai vécu quelque chose de spécial, puis là, ça m'a bloqué. Parce que, des fois, il faut creuser plus profond dans notre cœur pour que Dieu apporte une guérison spirituelle dans une partie, une facette de notre vie, pour nous permettre de goûter à cette vie abondante-là. Et puis, il y a le combat aussi. Et puis, merci Joanne, récompense céleste pour toi. Donc, ce sont tous des éléments. Remarquez, le combat, ce n'est combat spirituel. Des fois, ce qui bloque, c'est parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose de spirituel, une opposition satanique, démoniaque. Et puis, entre parenthèses, on peut être surpris. C'est pas juste des grosses affaires. Des fois, c'est dans des petites choses. L'ennemi est présent dans des petites choses aussi. Mais là, je vais pas aller dans ça. On va y revenir. Mais ces quatre disciplines-là, ça fait partie du quotidien, de votre vie chrétienne, de ma vie chrétienne, de notre vie chrétienne. Puis même John Eldridge, il met le point 4, il le met au point 2. Ce n'est pas une progression nécessairement, là. C'est juste parce que la discipline puis le combat, c'est quelque chose qui est plus individuel. Le counseling puis la guérison, des fois on a besoin d'une personne, on a besoin d'un groupe qui vient d'une communauté qui nous entoure pour nous aider à aller plus loin. Mais toutes ces choses-là, ça fait partie de la vie chrétienne. Alors, le combat spirituel, ce n'est pas une grosse affaire que là, il faut qu'on traite en soi. C'est un des éléments. Et puis, c'est ce point 4-là que j'aimerais, par la grâce de Dieu, essayer de développer au fil des semaines. Et là, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement. J'ai presque terminé. Donc, l'enjeu du combat, c'est la vie abondante en Jésus. Mais là, honnêtement, quand je préparais ça, je regardais mon ordinateur avec cette belle diapositive-là, puis je disais, il manque de quoi encore? Il y a quelque chose qui manque, parce que j'ai l'impression que si on reste là, si on arrête là, c'est tellement centré sur moi, alors qu'il y a quelque chose de tellement plus gros que ça. Il y a quelque chose de plus gros que moi. Et puis, juste rapidement, vous lire un verset du livre des Juges. Ça fait bizarre. Le livre des Juges, c'est un livre bizarre. Je sais pas, pour ceux qui le connaissez, là, si vous n'êtes pas familier avec, j'ai pas vraiment le temps de vous raconter tout ça, mais c'est un livre de guerre, essentiellement, puis de choses bizarres. Puis il y a ce petit verset-là. Voici les nations que le Seigneur laissa en repos pour mettre par elles à l'épreuve Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan, ce fut uniquement pour que les générations des Israélites connaissent et apprennent la guerre. Ceux du moins qui ne l'avaient pas connu auparavant. Puis là, il nomme toute une série de nations. Et puis au verset 4, ça reprend en disant, ces nations-là servirent à mettre les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils écouteraient les commandements que le Seigneur avait institués pour leur père par l'intermédiaire de Moïse. Apprendre la guerre, apprendre le combat. Dieu veut qu'on connaisse le combat. C'est spécial, hein? Pourquoi? Parce que la guerre révèle ton allégeance. La guerre révèle ton allégeance. De quel côté vas-tu te battre? Il y aurait beaucoup de réflexions puis à dire à ce niveau-là, mais l'enjeu, c'est la gloire de Dieu. Pensez, et juste un petit exemple rapidement, David et Goliath, c'est une histoire qu'on connaît bien, hein? David et Goliath. Il y avait Goliath qui sortait devant l'armée des Philistins qui venait lancer un défi à l'armée des Israélites. Qu'est-ce que l'armée des Israélites faisait? Il shakait dans le culotte, n'est-ce pas? David est arrivé, puis est allé devant. Qu'est-ce que David a dit aux Philistins? Tu as insulté le Dieu de l'armée d'Israël. David, lui, qu'est-ce qu'il a vu dans tout ça? Il a vu une insulte au Dieu vivant. Il a vu tout de suite, tous les autres, Saül puis toutes les autres gangs, ils étaient à une perspective terrestre de la chose. David a vu, tu as insulté le Dieu vivant. C'est pour ça que l'enjeu ultime, c'est la gloire de Dieu. Et, juste pour terminer, donc, vous avez ces trois niveaux-là. Et puis, le combat spirituel, ça va impliquer à quelque part, ces trois niveaux-là. Un petit peu plus, il y a une couple de semaines, le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur par rapport à quelque chose d'autre, mais je pense que ça s'applique ici. À un moment donné, il m'a dit, jusqu'où tu es prêt à aller? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Et puis, moi, je vous lance ça. Jusqu'où êtes-vous prêt à vous battre pour peut-être le salut d'un parent, d'un ami, d'un voisin? Jusqu'où êtes-vous prêt à vous battre? Pour votre propre vie spirituelle, jusqu'où êtes-vous prêt à vous battre? Puis dans tout ça, est-ce que vous réussissez à voir la gloire de Dieu? Et jusqu'où êtes-vous prêt à vous battre pour l'honneur de Dieu? Le combat spirituel, ça implique tous ces trucs-là. Et c'est là-dessus que je veux vous laisser ce matin. C'est plus une réflexion. À ce point-ci, c'est peut-être pas très, très pratique. Par la grâce de Dieu, je veux en venir à des choses très pratiques ou plus pratiques. Mais il faut être conscient de l'enjeu du combat. Et de se poser la question, jusqu'où on est prêt à se battre pour trois petits points. Prions, s'il vous plaît. Père éternel, on veut te bénir et on veut te remercier pour ta parole et pour ces moments qu'on a passés ensemble. Et je te prie de prendre toutes les paroles que j'ai dites, puis dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, de les trier, de les démêler, puis que permets que ton esprit retienne vraiment seulement ce que toi tu voulais qu'il soit communiqué. Parle à leur cœur, parle à mon cœur. On veut se battre pour ton honneur, Seigneur Dieu, parce qu'on reconnaît que tu es un grand Dieu, un Dieu bon, compatissant, mais aussi un Dieu juste et vrai. Puis on veut proclamer ta gloire. Et on veut vivre aussi cette vie abondante, Seigneur Jésus, que tu nous donnes. On veut que nos parents, nos amis autour de nous qui ne se connaissent pas encore, y goûtent aussi. Montre-nous, Père, montre-nous, Seigneur Jésus, le combat que tu veux qu'on mène pour ta gloire, pour ton honneur. Et en toute chose, Père, on te prie au nom du Seigneur Jésus afin que justement, même ces paroles, ces réflexions-là, ces discussions-là peut-être qui suivront, te glorifient parce que tout est pour ta gloire. Amen.